Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
8h40 également au Mali, où l'opposition maintient la pression depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle il y a maintenant près d'un mois. Soumaïla Cissé ne cesse de dénoncer des bourrages d'urnes et des fraudes. D'ailleurs, le chef de l'opposition ne reconnaît toujours pas la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Samedi dernier, le leader de l'Union pour la République et la Démocratie a donc une fois de plus mobilisé ses partisans à Bamako pour contester la réélection d'Ibeka. Ils étaient encore des milliers dans les rues de la capitale. La lutte continue, a-t-il déclaré, et une nouvelle marche est même prévue vendredi prochain, toujours à Bamako. Alors jusqu'où l'opposition ira-t-elle dans sa contestation? Soumaïla Cissé n'a plus de recours juridique, puisque tous les recours ont été déboutés par la Cour constitutionnelle. En tout cas, depuis sa réélection, Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité, jetant la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, a-t-il dit il y a tout juste 2 semaines lors de son discours d'investiture. Alors dites-nous si cette crise post-électorale risque de s'amplifier, comment apaiser les tensions? Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment, comme tous les matins, quelques-unes pour alimenter la réflexion. Amadou est en ligne de Bamako. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Juan.
L'opposition doit changer de stratégie, avez-vous dit au Standard?
Oui, tout à fait. Je pense que au bout d'un mois de marche, il faut mesurer le chemin parcouru et ne pas être dans l'usure, parce que le pouvoir sait ce que ça veut dire, les marches. Donc ils vont laisser l'opposition siéger, et après maintenant ils vont essayer de perdre leurs militants. Donc je pense que ils doivent s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est la liste électorale. C'est ça qui a permis les bourrages, parce que il y a des contrées désertiques où il y a plus de votants que de populations. Donc, à mon avis, l'opposition doit s'attaquer à ce problème, faire le lobby nécessaire au niveau de la communauté internationale, au niveau de la MINUSMA, pour essayer de corriger ce fléau-là qui a gangréné toutes les élections. Mais cette année, ça atteint quand même des proportions inégalées.
C'est-à-dire, Amadou, vous comprenez l'opposition lorsqu'elle dénonce des fraudes, mais vous ne comprenez pas la stratégie, à savoir appeler chaque semaine à manifester?
Oui, tout à fait. Je pense qu'au bout d'un mois de marche, ça suffit pour montrer sa colère, pour dénoncer. Maintenant, il faut réfléchir à d'autres stratégies. Montrer aux gens que, par exemple, ce qui a favorisé le bourrage, c'est la liste électorale, où il y a des nombres de votants qui n'existent pas sur le terrain. Et l'opposition doit, s'efforcer de démontrer à la face du monde que le nombre de votants à Guelhok ne correspond pas à la réalité, que le nombre de votants à Talataï, à Tessit, à Menaka ne correspond pas à la réalité, et que dans aucun pays du monde, on a vu les gens, le nombre de personnes sur la liste à voter 100%, que ça n'existe pas.
Sur Facebook, c'est ça qu'il faut. Amadou, voilà. Sur Facebook, Younoussa nous dit, les institutions maliennes ont déjà déclaré Ibeka vainqueur, donc il sera très difficile à Soumaïla Cissé d'être entendu par la communauté internationale. Il faut donc aller de l'avant, nous dit cet auditeur. Ce n'est pas seulement en étant président de la République que l'on peut servir son pays. Et plusieurs auditeurs sur Facebook disent, on peut servir son pays sans forcément être le chef de l'État. Amadou, merci de nous avoir appelés. On reste dans la capitale malienne. Bonjour Moïse.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à tous les auditeurs RFI.
Contrairement au premier auditeur, vous dites que l'opposition a raison d'être dans la rue.
Oui, je comprends tout à fait. Ce que je déplore seulement, peut-être ils ont dû prendre un peu de temps pour manifester. Ce qu'ils auraient dû faire avant même l'élection, c'est après les élections qu'ils se sont mis à les faire. Finir, c'est donner les mains pour que ça soit réellement une opposition à une force à sens unique, ce qui n'avait pas été le cas. Sinon, présentement, les manifestations que l'opposition met en place, je trouve qu'ils ont tout à fait dans leur droit, ils ont tout à fait raison de les faire, parce qu'il faut reconnaître, il faut manifester pour se faire entendre dans ces pays.
Mais enfin, en même temps, je le disais tout à l'heure, Soumaïla Cissé n'a plus de recours juridique. Possible, puisque les recours ont été tous déboutés par la Cour constitutionnelle, qui les a jugés irrecevables et infondés. Faute de preuves, puisqu'on attend toujours les preuves de ces fraudes, de ces bourrages d'urnes.
Oui, par rapport à ça, ces preuves-là, difficilement, on aura quand même assez de preuves. Hein. Je le dis bien difficilement. Je ne suis pas sûr qu'on atteint ces preuves-là. Mais franchement, la force, la pression populaire que vous sentez depuis combien de semaines déjà, des milliers de personnes qui sont mobilisées de part et d'autre, fera quand même que le pouvoir va essayer de négocier avec eux pour trouver un terrain d'entente, finalement, pour apaiser la situation. Parce qu'on ne pourra pas gouverner tant qu'il y a du désordre.
Oui.
Et il y a tout le temps des mécontents. Il y a tellement de mécontents de jour en jour parce que c'est. Il faut reconnaître l'opposition s'est fait voler les élections elle-même.
Oui, enfin, vous dites que il y a de plus en plus de mécontents, que les rangs des mécontents gonflent de jour en jour. Pour reprendre votre expression, difficile de savoir avec précision combien de personnes ont manifesté, par exemple samedi dernier. Les organisateurs parlaient de 25 000 personnes. De sources policières, on parle plutôt de 12 000 personnes. Mais enfin, pour beaucoup, ce qui ressort, c'est que le mouvement s'essouffle. Certes, 25 000 personnes, si le chiffre est exact, ça fait beaucoup de monde, mais il y en avait beaucoup plus 15 jours plus tôt.
Oui, le mouvement va s'essouffler quelque part. Le mouvement s'est même essoufflé depuis bien avant les élections, quand les opposants n'ont pas été capables de s'unir pour faire un front unique contre les présents sortants. Donc, cela a même découragé, il y a même de ces gens qui, au sein de la population, réellement étaient du côté de l'opposition, et par la suite qui ont basculé, qui se sont dit, écoutez, nous ne savons plus que ces gens-là voulaient. On ne pouvait pas attendre un nombre de candidatures jusqu'à au 24.
Moïse, on va pas refaire l'histoire de la campagne électorale, du processus électoral. On est là pour voir un peu la stratégie de l'opposition, jusqu'où ira-t-elle. Merci en tout cas d'avoir appelé. Bonne journée à Bamako. Issiaka, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous dites que le débat est clos.
Juan, je pense que le débat est clos. Et ceux qui sont actuellement dans la rue pour marcher, pour soi-disant et dénoncer la fraude, je pense qu'ils doivent savoir raison garder. Et toutes les institutions de la République, d'ailleurs la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont fait que le président de la République a été installé, il a prêté serment. Et les observateurs internationaux qui ont été déployés pour la cause ont reconnu que le processus a connu quelquefois des irrégularités, mais ces irrégularités n'entament pas la sincérité des scrutins.
Oui.
Je pense que...
Et alors justement, Issiaka, vous en êtes convaincu, Modi sur Facebook nous dit « IBK a volé le vote des Maliens à travers les observateurs internationaux qui n'ont observé que 400 bureaux de vote sur les 23 000 le jour de l'élection ».
One, on ne peut jamais observer tous les bureaux de vote. On a plus de 23 000 bureaux de vote. On ne pourrait jamais les observer. Mais je pense qu'au Mali, il y a la Commission électorale nationale indépendante sous l'égide du ministère de l'administration territoriale qui supervise les élections. Et à l'issue du vote, de chaque bureau de vote, il y a ce qu'on appelle un procès verbal. Et ce procès verbal qui est dans chaque bureau de vote a été signé par un représentant de l'opposition et par un représentant de la majorité. Je pense que s'il y a des fraudes, c'est des par là qu'on peut signaler les fraudes. Alors, si l'opposition dit qu'il y a eu du vol, moi je veux que l'opposition brandisse les procès verbaux.
Oui.
Vous voyez,
les
ces
preuves.
Gens qui sont très intelligents. Les preuves. Un procès verbal, quand même, c'est l'élément le plus légal et le plus utile pour prouver qu'il y a eu du vol dans un bureau de vote.
Alors, l'un de vos compatriotes, Sissoko, est en région parisienne, il est malien, lui aussi a manifesté, puisque les Maliens de l'étranger organisent des manifestations s'ils ne reconnaissent pas la victoire d'IBK. C'est le cas de... c'est votre cas, Sissoko, bonjour.
Exactement, bonjour...
Vous manifestez où exactement dans Paris?
Vous manifestez Paris, un rassemblement qu'on fait pour manifester, démontrer notre mécontentement.
Oui.
Et démontrer aussi que ce qui se passe dans les élections qui n'est pas normal, des fraudes, des bourrages des urnes.
Ouais, mais enfin vous, excusez-moi, voilà. Sissoko, vous êtes à Paris, on parle de fraude, bourrage d'urnes, vous avez des preuves?
Bah, en tout cas, ce qui est aux côtés de la France, on sait très bien que nous, la majorité, ils sont votés pour Ismaïla.
Oui.
Pour Ismaïla Cissé. Et ici, on a fait des comptes. Et réel, ici, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait au Mali.
C'est-à-dire que les Maliens... Attendez, j'essaye de comprendre, Sissoko, parce que le réseau téléphone n'est pas très bon. Les Maliens de Paris ont voté majoritairement sous Maïla Cissé. Voilà. C'est ça.
On va dire comme ça, exactement, majoritairement, ils ont voté pour Maïla Cissé.
Oui. Et
quand on a compté les voix, tout le monde sait que dans les régions parisiennes, Soumaïla, il a apporté sans difficulté.
Et donc, vous pensez que les Maliens de France sont représentatifs de ceux qui vivent au pays ?
Exactement. Bon.
Bon, c'est votre interprétation, si ce qu'on... Je l'entends, mais
oui,
enfin...
Bien sûr.
Excusez-moi, pour moi, ce n'est pas une preuve formelle, ce que vous nous dites.
Non, j'ai dit la preuve. Quand tu m'as dit, est-ce qu'on a des preuves au niveau vers Bourras des Urnes, est-ce qu'on a des preuves comme quoi il y a eu Bourras des Urnes, il y a eu des vols des Maliens, les manifestations qui sont en train de faire sur les terrains, ça montrait que les Maliens ne sont pas votés pour, la majorité ne sont pas votés pour...
J'entends Sissoko, mais en même temps, c'est difficile à dire que la majorité n'a pas voté pour le président réélu. Quand vous avez 25 000 personnes dans la rue, certes, c'est beaucoup, et encore une fois, ce sont les chiffres de l'opposition, mais ça ne représente pas une majorité, la majorité de la population de Bamako. Voilà. Mais en même temps, voilà, j'entends votre discours, vous avez le droit de l'exprimer. Après, reste à apporter les preuves, évidemment, et c'est peut-être le plus difficile. Merci de nous écouter à Paris sur les 89 FM. Qui avons-nous au standard ? J'ai des fiches sous les yeux, mais je ne sais pas. Ah, Seydou, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, merci.
Alors, sur Facebook, il y a Seydou qui nous dit « Ces marches n'iront nulle part, car il y a d'autres priorités. On doit avancer. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cet auditeur, ça, Seydou ?
Je ne suis pas... Bon, je suis un peu d'accord avec lui.
Oui.
Disons que je le... Parce que, en fait, d'autant plus que là, au niveau où on est, j'ai l'impression que les marches sont en train de baisser d'intensité. Vous voyez, nous, on a les marches qui sont en train de se faire. C'est vrai, il y a du monde hein, dans les rues. Samedi passé, il y a eu une grande marche organisée par l'opposition. Mais à la suite, nous, on veut savoir concrètement ce qui va être... ce qui va être mis en action après ces marches-là. Si l'opposition n'est pas écoutée, si l'opposition n'est pas suivie et que vous voyez que le président de la République a mis en place son gouvernement, il a commencé à mener des actions, notamment de dialogue social, il a demandé à son gouvernement de veiller à, de se mettre à appliquer les accords issus du processus d'Alger. Et ils sont en train de prévoir déjà les élections législatives. Alors, je voudrais savoir si les marches-là vont, en fait, pour nous dire qu'ils ne vont plus aller aux élections tant qu'il n'y a pas une issue par rapport à ces histoires d'élections fraudées, présidentielles fraudées, ou bien, à fin de compte, ils vont accepter d'aller aux élections.
Seydou, vous vous posez les questions que tous les Maliens se posent, et elles sont effectivement légitimes. À votre avis, s'il serait logique, Soumaïla Cissé devrait boycotter les élections législatives prévues, je crois, d'ici la fin de l'année ?
Mais bien sûr, il devrait les boycotter et ces marches-là doivent s'organiser de sorte que les élections ne puissent pas avoir lieu. Tant que on ne tire pas au clair la question de la fraude présidentielle, parce que lui, il reconnaît que le président de la République élu n'est pas légitime, il n'est plus pas président de la République, il a été élu à la fraude.
Oui, c'est ce que dit Soumaïla Cissé. Un auditeur sur Facebook, Blaise, nous dit mais que veut Soumaïla Cissé ? Que l'élection présidentielle soit reprise ou qu'il soit déclaré vainqueur en dépit des fraudes que lui-même dénonce ? Voilà un commentaire pertinent. Série nous dit « On en a marre de ces marches ». Michel affirme que le Mali traverse une crise sécuritaire sans précédent qui alourdit sévèrement sa progression. Le pays a donc besoin de paix pour se développer. Il faudrait éviter de nouveaux troubles. Soumaïla Cissé peut servir autrement le pays plutôt que de l'enfoncer davantage avec son entêtement à vouloir contredire le résultat déjà connu et validé. Le Mali, nous dit Michel, a besoin de développement et non de résistance. Bonjour Aliou.
Bonjour.
Les manifestations ne riment à rien, disiez-vous au standard.
Absolument. Les marches incessantes de l'opposition n'apportent aucune espèce de solution pour une situation déjà acceptée par les Maliens et entérinée par la Cour constitutionnelle, félicitée par les homologues d'IBK à l'échelle internationale, mise en place de l'attelage gouvernemental avec les missions assignées. La main tendue du président IBK sont près de l'opposition pour faire face aux obstacles et défis à commencer par la mise en œuvre de l'accord d'Alger, chose attendue et souhaitée par tous les parties prenantes afin de porter le Mali dans un lustre d'antan.
Aliou, est-ce que cette main tendue du président Ibeka est suffisante?
Cette main tendue du président Ibeka, à mon humble avis, est vraiment chose qui est vraiment suffisante. Ouais. Eu égard à tout ce qui s'est passé au moment de ces élections-là, et qui ont été vraiment, les observateurs internationaux ont été vraiment très formels, comme quoi les élections se sont déroulées dans la plus grande transparence.
Oui, mais comme le rappelait un auditeur précédemment, les observateurs internationaux n'étaient pas présents dans tous les bureaux de vote, à savoir les 23 000 bureaux de vote à travers le territoire malien. En tout cas, pour revenir à cette main tendue du président Ibeka lors de son discours d'investiture il y a 2 semaines, il a tenu un discours effectivement d'unité. Il a tendu la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, a-t-il dit. Il a même cité le terme sans exclusion. Exclusivité, précisons et rappelons que Soumaïla Cissé, lui, a boycotté la cérémonie, la jugeant nulle et de nul effet. C'est ce qu'il a écrit dans un communiqué. Soumaïla Cissé qui a donc boycotté la cérémonie alors qu'il était présent lors de la première investiture d'Ibeka en 2013. 33 9 693 693 70. Tunko, bonjour.
Bonjour, Anna.
Vous êtes à Paris, vous soutenez les manifestations?
Alors, je soutiens en manifestation pacifique, et je soutiens la position de l'ensemble des positions qui contestent le résultat obtenu au cours des dernières élections, parce que tout simplement, je ne suis pas partisan ni l'un ni l'autre. Je suis démocratie et je suis ici pour sauvegarder la démocratie malienne. Si nous continuons à accepter ces heures d'élections dans notre pays, et je pense que la démocratie et plus tôt ou tard, à prendre un coup sérieux.
Ouais, enfin, vous dites et que, excusez-moi, vous dites que vous n'êtes ni pour l'un ni pour l'autre. En même temps, vous dites que la démocratie est mise à mal en ce moment au Mali. C'est exactement la position de Soumaïla Cissé. Hein.
Oui, mais
donc vous êtes quand même plutôt tendance opposition.
Non, je m'explique. En tant qu'en démocratie, la façon que les élections s'est déroulée dans l'ensemble des Maliens. On ne peut pas dire que ça s'est passé dans les manières démocratiques et absolues. La position, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui?
Oui.
La transparence des élections, sauvegarder la démocratie. Je pense qu'en tant que démocratie, on doit s'associer à cette cause. Mmh. Et je vous rappelle, depuis l'instauration de la démocratie au Mali, depuis 1991, il n'y a pas, à part les premières élections, il n'y a pas une élection qui n'a pas été contesté par l'un, par l'autre, y compris Ibrahim Boubacar Keïta, à l'époque, elle était en opposition.
Et donc, Tunko, il faut conclure, la conclusion.
Oui, ma conclusion aujourd'hui, j'ai lancé un appel.
Non, on va pas lancer un appel, ne lançons pas d'appel, on n'est pas, vous êtes là pour me donner votre point de vue, votre sentiment, votre réflexion, on n'est pas là pour interpeller la population qui nous écoute, hein. Une partie évidemment des électeurs de l'un et de l'autre sont aussi auditeurs de RFI. Le débat était passionnant, merci à tous de votre fidélité. Demain on parlera de la grève des fonctionnaires au Tchad, cela fait maintenant 4 mois qu'ils ne travaillent pas, qu'ils refusent de travailler pour dénoncer les mesures d'austérité prises par le gouvernement et notamment la réduction de leur salaire. Des salaires divisés par 2. Du coup, face à l'absence de proposition du gouvernement, les fonctionnaires ont décidé hier de poursuivre le mouvement. Alors, que vous inspire ce bras de fer, vos témoignages? Racontez-nous d'ailleurs comment vous vivez au quotidien la grève des fonctionnaires depuis le mois de mai. 33 9 693 693 70. Je signale aux auditeurs de Conakry que nous serons la semaine prochaine sur place pour l'enregistrement de plusieurs émissions au Centre culturel franco-guinéen. Tout le programme est accessible sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Donc allez-y, vous aurez les sujets, le thème, certains invités et vous pouvez évidemment vous inscrire dès maintenant. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Vous êtes sur l'antenne d'RFI, dans 10 minutes on vous retrouve. En ce moment même, le président Macron dévoile sa réforme du système de santé. Vous en parlerez juste après le journal.
Oui, hein, une cinquantaine de mesures, 400 millions d'euros débloqués cette année pour l'assurance maladie, 3,4 milliards d'ici 2022. Création